ici, les étoiles ont des cordes vocales.
Vous écoutez Voix d'étoiles,
l'émission qui vous éclaire sur le festival.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Je m'appelle Pascal Le Pennec.
Quel est votre métier ?
Je suis compositeur de musique et je travaille principalement pour le cinéma.
Pour quel type de projet composez-vous ?
Eh bien, la vie a présenté les plats, si je peux utiliser cette expression, d'une façon assez étonnante, puisque je travaille essentiellement dans le domaine de l'animation, alors que à l'origine, ce qui m'intéressait effectivement, c'est de travailler pour l'image, pour le cinéma. Mais les projets se sont enchaînés dans ce domaine-là, en ce qui me concerne.
Donc ça n'a pas été resté le même projet
Ah non, bien sûr. J'ai enchaîné les projets de... les films de longs métrages et de longs métrages d'animation. Parce que les choses auraient pu, dans ma vie, s'enchaîner autrement. J'aurais pu... travailler plus particulièrement sur des films en prise de vue réelle. Et il se trouve que c'est dans le domaine de l'animation que les choses se sont faites jusqu'à présent.
D'accord. Depuis quand faites-vous ce métier ?
Ah, la musique depuis toujours, j'oserais dire. En tout cas, je suis musicien depuis la fin de mes études qui étaient, après le bac, des études supérieures de musique. Donc, j'ai été... La musique a toujours occupé une grande importance dans ma vie. Et la musique a toujours été mon métier. Mais j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans.
Ah oui, ça fait tôt quand même. Hein.
Ça fait tôt, oui.
De quel instrument jouez-vous ?
Alors, depuis que je me consacre exclusivement à la composition, j'ai l'habitude de dire que je joue du crayon. Le crayon qui sert à inscrire des notes sur du papier à musique. Bon, je dis ça un peu pour m'amuser, mais enfin, c'est vrai, puisque lorsqu'on écrit pour toutes sortes d'instruments qui ne sont pas... évidemment que je ne joue pas de tous les instruments, mais la chance du compositeur, c'est pour ça que je dis que je joue du crayon, c'est d'avoir en quelque sorte l'illusion qu'il joue de tous les instruments. C'est comme mon instrument de musique, en fait, c'est mon instrument à moi, c'est le crayon, c'est-à-dire que j'écris pour les autres, grâce à un crayon.
Comment travaillez-vous ? Est-ce que vous faites de la musique avec des instruments ou sur des ordinateurs ?
Alors j'ai une façon de travailler qui est un peu à cheval entre la façon ancienne de travailler et les manières nouvelles de travailler. C'est-à-dire que pour composer, j'ai vraiment besoin de papier à musique, d'un crayon, d'une gomme, très importante la gomme. Ça c'est pour le premier stade sur un film, lorsque j'invente des mélodies... des accompagnements pour cette mélodie. À ce stade-là, j'utilise papier à musique, crayon, gomme. Et puis, il faut que je fasse entendre au réalisateur ou à la réalisatrice mes idées musicales. Et donc, pour faire entendre mes idées musicales, c'est évidemment pas sur du papier à musique, d'autant que tout le monde ne lit pas la musique. Donc, j'effectue des maquettes, ce qu'on appelle des maquettes, sur des machines, sur un ordinateur, et là je réponds à ta question. Des machines qu'on appelle échantillonneurs ou sampleurs, qui permettent d'imiter presque parfaitement l'orchestre. Parce qu'en fait, les sampleurs, les échantillonneurs, nous donnent accès à des banques de sons réels d'instruments. Donc mes partitions... Je les fais d'abord jouer par ces machines qu'on appelle échantillonneurs ou sampleurs avant de passer à l'orchestre réel. Parce que à ce stade, je n'ai pas la validation du réalisateur. Je ne sais pas si le réalisateur va me dire oui ou non. Donc j'évite de travailler trop quand même parce que mon idée, elle peut aller à la poubelle. Donc Avant d'avoir accès à un véritable orchestre, j'effectue des maquettes sur échantillonneur.
À votre avis, quelle est l'importance de la musique dans les films?
Très bonne question. Parce que le public a rarement conscience de l'importance de la musique au cinéma. Ça agit souvent chez les gens de manière, c'est un mot un peu compliqué, subliminale. C'est-à-dire que les gens, ça agit sur leur façon de comprendre l'image, la musique agit, mais ils ne se rendent pas compte. Et donc, pour répondre à la question de manière synthétique, je citerai la phrase d'un réalisateur avec qui je travaille souvent, Jean-François Laguioni. C'est d'ailleurs un film de Jean-François Laguioni qui est présenté ici, dont j'ai fait la musique, Slocum et moi. Il a coutume de dire, Jean-François Laguioni, que c'est la musique qui donne son sens final à l'image. Rendez-vous compte à quel point pour lui, comme pour d'autres réalisateurs, la musique, c'est quelque chose d'important.
Vous avez un film en compétition, vous pouvez nous en parler ?
Slocum et moi, c'est un très joli film que je trouve émouvant. Figurez-vous que je l'ai vu jusqu'à présent 3 ou 4 fois en salle, durant des avant-premières. Et à chaque fois, je suis ému un peu plus. Donc c'est bon signe. C'est un film très touchant. Qui est présenté comme le dernier film de Jean-François Laguioni. Bon, il nous a déjà dit ça, mais là, je crains que ce soit vrai. Et c'est un film, en fait, très autobiographique. C'est le film le plus autobiographique, c'est-à-dire sa propre vie. Ce film porte sur l'enfance de quand il avait votre âge, l'enfance de Jean-François Laguioni, sur les bords de la Marne, près de Paris, dans les années 50. Et il y a deux histoires dans ce film. Le père de Jean-François Laguioni, qui était représentant de commerce, donc il n'était pas du tout marin, d'autant que il a passé son enfance, Jean-François, à Paris. Et son père était passionné de mer, d'histoire de marin. Il était tellement passionné qu'il a entrepris de construire un bateau dans son jardin, dans un jardin des bords de Marne, près de Paris. Ça a duré 3-4 ans. Et le bateau, c'était quand même un bateau important, parce que c'était le bateau, la réplique exacte, puisqu'il y avait les plans, du bateau de Slocum, qui est un très grand navigateur. Lorsque vous parlez de Slocum à Joshua Slocum, aux marins du monde entier, ils ouvrent des grands yeux parce que c'est un demi-dieu pour eux. C'est vraiment un personnage très important parce que Slocum a réalisé le premier tour du monde en solitaire à la fin du 19e siècle. Et le père de Jean-François Laguioni a construit dans le jardin familial la réplique, c'est un projet fou quand même, la réplique du bateau de Slocum, le bateau qui s'appelait le Spray. Et le film porte là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux histoires entremêlées, la véritable histoire de Slocum, le navigateur, et la propre histoire de Jean-François qui raconte son histoire et comment il a vécu cette aventure incroyable d'un bateau. D'autant plus, il ne sait pas vraiment dans quelles conditions il a pris la mer, puisque un jour, il est revenu de vacances, Jean-François, et le bateau avait disparu. Il avait été vendu, et on ne lui avait rien dit, il était en vacances. Enfin, c'est en fait ce qui est arrivé à Jean-François Laguioni dans sa vraie vie, dans sa propre vie, sa vie d'enfant, c'est très cinématographique, en fait. Et il en a fait un film.
Est-ce que votre métier prend du temps ?
Alors, ça dépend de quoi il s'agit. S'il s'agit d'un court-métrage, forcément, ça prend moins de temps qu'un long-métrage. Ça dépend également du type d'instrument, de la formation instrumentale que l'on choisit. Moi, je compose beaucoup pour orchestre. On m'appelle souvent pour ça. Donc, composer 45 ou 50 minutes d'orchestre pour un long métrage, c'est beaucoup de travail. Donc, il m'est arrivé de devoir travailler très vite, en 3 mois. Mais là, c'est à peine soutenable. C'est très fatigant. 45 minutes ou 50 minutes d'orchestre en 3 mois, comme pour le tableau. Hein, la première collaboration avec Jean-François Laguioni, c'était le tableau. Là, c'était vraiment très fatigant. J'en suis sorti complètement rincé, comme on dit. Mais oui, ça prend du temps. Pour un long métrage, pour une partition d'orchestre longue, moi, ce que j'apprécie, c'est d'avoir un an devant moi.
Quel est votre style de musique préféré ?
Ma formation, elle est classique. Je pense que mon écriture demeure assez classique. Et je pense que c'est pour ce type d'écriture orchestrale-là qu'on m'appelle, souvent. Mais, dans ce film-là, par exemple, Jean-François m'a aussi demandé de composer des thèmes, comme on dit, hein, c'est-à-dire des mélodies et leur accompagnement, dans un genre jazz manouche. Donc, le propre du compositeur de musique de film, c'est de pouvoir répondre à des demandes extrêmement diverses. Voilà, ce que j'appelle, moi, être musicien caméléon.
Est-ce que vous avez déjà composé pour des jeux vidéo ?
Non, je connais, pas très loin d'ici, au fond, à Montpellier, quelqu'un que vous avez déjà reçu, je crois, Christophe Héral, qui, lui, est vraiment spécialisé dans la composition de musique pour les jeux vidéo.
Et pour finir, avez-vous 2 ou 3 anecdotes ?
Ah, question piège. Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, tiens, ça va vous amuser, je pense. Ça m'a un peu moins amusé quand ça m'est arrivé. Pour un film qui s'appelle Bayala, un autre film long-métrage d'animation, alors que la musique allait être enregistrée, quelqu'un m'a appelé en me disant « Pimpon, il y a un problème. » Une des mélodies, un des thèmes que j'avais composé était la réplique exacte d'un thème qui avait déjà été composé bien des années avant, des décennies avant, et dans une série américaine tombée aujourd'hui dans l'oubli. C'est quelqu'un, un passionné de série américaine, qui m'a appelé pour me dire ça, en me disant « Attention !» Et en fait, ça prouve quoi ? Ça prouve que même lorsqu'on n'en a pas conscience et qu'on est compositeur, on peut, par le hasard de la combinaison des notes, on peut retomber sur d'autres rails, des choses qui ont déjà été faites alors qu'on n'en a pas conscience. Alors ça s'appelle des réminiscences lorsqu'on a soi-même entendu d'autres musiques. Mais là, c'était même pas une réminiscence. Je connaissais pas la série, j'avais jamais entendu cette musique. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire, ce que j'avais composé était extrêmement proche de cette musique qui avait été pondue, qui avait été composée quelques dizaines d'années avant. Et j'ai juste eu le temps de la modifier, parce que ça pouvait tomber sous le coup de la loi. Donc, on aurait pu me dire, ben, vous avez copié. Oui, on pouvait m'accuser de plagiat. Or, j'y étais pour rien, c'est un hasard total. Donc c'est quand même... C'est pas banal comme histoire, ça. Donc j'ai pu modifier sur ma partition de manière à ce que ça ne soit pas considéré comme un plagiat.
Super. D'accord, merci.
Je vous en prie, avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci.
Voix d'étoiles.
Vous écoutez Voix d'étoiles.
L'émission qui vous éclaire sur le festival.
Ce podcast a été réalisé par Alexandra Josse pour l'association Médias Communs Occitanie. Elle a été réalisée avec des enfants dans le cadre d'un atelier Podcast Club qui a eu lieu lors du festival Voix d'étoiles à Port-le-Cat en octobre 2024. Ce podcast est placé sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre.